Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde. Дневники мира.
Europa 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les carnets du monde, l'émission où l'on écoute le monde changer depuis 14 saisons. Et aujourd'hui, tiens, on s'intéresse au mur, à celui de Berlin bien sûr, 30 ans qu'il s'est ouvert pour laisser les citoyens circuler librement. Un an plus tard, la réunification des deux Allemagnes était une autre fête, mais pas pour tout le monde. Les entreprises de l'Est privatisées très souvent n'y ont pas trouvé leur compte.
Privatiser à tout prix, a posteriori, ce n'était pas la solution la plus optimale pour la cohésion de notre société dans son ensemble. Quand on te dit, et à ton voisin, et à tout le monde en fait, vous ne servez à rien, on n'a pas besoin de vous, ce que vous savez faire, ça ne nous intéresse pas, ça laisse des traces.
On évoquera avec Helen Kohl ses rancœurs, toujours vives dans certaines mémoires. Je vous emmènerai aussi devant un autre mur, celui de Trump, c'est son argument de campagne numéro un. Xavier Yvon est allé sur la frontière avec le Mexique.
Que ce mur soit beau, qu'il soit grand, qu'il soit haut, ceux qui veulent passer passeront. Ils trouveront un moyen.
Vous entendrez des reportages et des points de vue de part et d'autre de la frontière. Autre mur, mais invisible celui-là, celui qui retient en Corée du Nord ceux qu'on peut considérer comme les plus anciens otages du monde, des Asiatiques enlevés dans les années 70 et 80, parmi lesquels des Japonais.
Ma grande sœur a été kidnappée à l'âge de 13 ans. Un soir, après l'école, on l'a jetée au fond de la cale d'un bateau qui l'a emmenée en Corée du Nord. Selon des témoignages concordants, pendant des heures, elle a appelé ses parents à l'aide.
Ce sont d'incroyables histoires et vous entendrez des proches des kidnappés, des enquêteurs et même l'une des rares personnes relâchées par Pyongyang. Pas de livre ce dimanche, mais un film dont Margot Barallon viendra nous parler, Noura rêve, on sera en Tunisie. Quant à Joseph Chovanec, il prend le contre-pied des murs pour venir nous dire comme les choses sont jolies parfois lorsqu'elles sont minuscules. Les carnets sont ouverts, direction le sud des États-Unis.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
On démarre ces carnets, le nez sur un mur qui fait l'actualité. C'est le mur de Donald Trump à la frontière mexicaine, c'est sa signature de campagne. C'est même devenu un chant dans ses meetings. Build the wall, construisez le mur. À un an presque jour pour jour de l'élection présidentielle, on est allé voir sur place, à la frontière. Bonjour Xavier Yvon.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
C'est vous qui êtes allé en Arizona et au Mexique, de chaque côté de la frontière. Une précision d'abord, avant l'arrivée de Trump, il y avait déjà environ 1000 km de murs et de barrières construits le long de cette frontière, qui en fait 3000. L'administration Trump en a fait remplacer certaines parties, mais le nouveau mur tant promis, on en est où ?
Alors on en est pas très loin, je dirais à la louche 300 mètres. Ah oui. Je suis allé voir cette première portion en train d'être érigée au sud de Tucson en Arizona dans un désert de cactus. La construction a commencé il y a quelques semaines. C'est un alignement de barres de métal de 9 mètres de haut surmonté de plaques rectangulaires. Le tout coulé dans une tranchée de béton. C'est Donald Trump lui-même qui a choisi le design. Alors le mur n'est pas encore peint tout en noir comme il l'a ordonné. Il n'y a pas non plus les pics pointus au sommet. Là aussi c'était ce qu'avait imaginé le président. Mais c'est bien donc ce fameux grand et magnifique mur promis par Donald Trump que j'ai eu en face de moi qui brillait au soleil. Ouais. Pour l'instant on peut facilement le contourner parce qu'il n'y a qu'une portion qui a été construite. Mais il va s'étendre petit à petit. J'ai dû aller côté mexicain pour m'approcher et j'en ai profité pour demander à Raphaël, un fermier qui habite juste en face, ce qu'il en pensait. Voici sa réponse.
Que ce mur soit beau, qu'il soit grand, qu'il soit haut, ceux qui veulent passer passeront. Ils trouveront un moyen. Le problème, c'est ceux qui passent la drogue. C'est une guérilla. Et c'est la même chose. Ils ne vont pas arrêter de passer. On regarde cette barrière pourrie, les gars vont la casser. Ils cherchent la manière de se faciliter le passage. Ça ne changera rien.
Et d'ailleurs, Xavier, ils ont déjà trouvé un moyen de passer.
Oui, c'est vrai, c'est surprenant ce mur. Très puissant. Comme le clame Trump, en fait, assez facile à découper, visiblement, parce qu'il y a des Mexicains qui ont utilisé des scies sauteuses qu'on trouve dans le commerce à 100$ et qui ont réussi à sectionner les barres de métal. C'est sorti cette semaine dans la presse. Ça s'est passé en Californie sur une des portions déjà existantes et donc remplacée par l'administration Trump.
Ça fait 3 ans que Trump est à la Maison-Blanche. 300 mètres en 3 ans, c'est pas beaucoup. Comment n'a-t-il pas construit, pourquoi n'a-t-il pas construit plus de kilomètres de ce mur ?
Pas parce que le Congrès ne lui a pas débloqué les sommes nécessaires. Les démocrates en font un principe. Pour eux, le mur, c'est immoral. Et même chez les républicains, il y en a beaucoup d'élus qui trouvent que le projet est inefficace et trop coûteux. Et souvenez-vous, l'an dernier, Donald Trump était allé au bras de fer. Il a provoqué un shutdown, une fermeture d'administration pour obtenir l'argent du mur. Finalement, il a cédé. La solution qu'il a trouvée, c'est de détourner des milliards de dollars du budget militaire. Et il a dit à ses équipes, maintenant, on y va, on construit sans attendre forcément les permis pour les zones protégées, en saisissant parfois des propriétés privées si besoin. Si c'est illégal, je vous gracierai, a même dit le président à ses conseillers selon le Washington Post. Et il s'est fixé un objectif d'ici l'élection, dans un an, 800 km de nouveaux murs.
Alors en attendant ce mur, on a voulu voir comment ça se passait de chaque côté de la frontière depuis que Trump est au pouvoir. Alors vous êtes allé vers Nogales, côté américain et côté mexicain. On va commencer par les États-Unis avec un de ces ranchers qui élève du bétail dans les immenses propriétés le long de la frontière. On écoute votre reportage, on vous retrouve tout de suite après.
Le vieux cow-boy plie difficilement les jambes. Il s'allonge, rampe sous les barbelés, manque d'y laisser son large chapeau et se relève.
Hi folks, I'm in Mexico.
Salut les gars, je suis au Mexique. En quelques secondes et un peu de gymnastique, Jill Shinton vient de passer la frontière entre son ranch américain et le Mexique, qui n'est ici qu'une simple barrière de fil de fer. Si un homme de 80 ans peut le faire, tout le monde peut le faire. C'est pour ça que nous avons besoin d'un mur. Le ranch de Jim s'étend sur 20 000 hectares dans les airs de l'Arizona. Il faut rouler 1h30 sur des chemins de terre pour parcourir la propriété du nord au sud. On aperçoit de temps en temps les vaches de Jim entre les arbres et les cactus. Rouler à travers son domaine, c'est traverser une autoroute de la drogue, comme le dit Jim. Vous voyez ces arbres, dit-il. C'est là que j'ai trouvé des paquets de marijuana. Le pick-up tout-terrain serpente entre les canyons. Jim pointe du doigt une colline désertique. Allez, on fait tous coucou parce que les guetteurs du cartel sont sûrement en train de nous observer de là-haut. Jim retrouve régulièrement les détritus qu'il laisse sur place. Le rancher a même installé des caméras infrarouges à certains endroits. Ses vidéos montrent des groupes d'hommes en tenue de camouflage avec des sacs à dos. Ils transportent de tout, meth, cocaïne, fentanyl. Mon ranch, c'est un no man's land aux mains des cartels de la drogue, se lamente Jim.
Le cartel de Sinaloa contrôle toute la frontière côté mexicain. Ils font payer les gens pour traverser. Et ils réservent certaines zones pour leur trafic de drogue. On nous dit que le prix pour un Mexicain, c'est 3 000, 4
000
dollars. Pour un centro-américain, c'est 8 000. Ici, vraiment, c'est un couloir pour la drogue, l'un des plus importants aux États-Unis.
Jim s'arrête au bord de la route pour saluer un agent de la police des frontières. L'officier a repéré des traces suspectes. On échange des infos. L'agent raconte avoir arrêté 3 migrants la veille plus à l'ouest. Le nombre de familles qui traversent explose, dit-il. Parfois, les cartels les utilisent comme des diversions pour les occuper. Le policier et le cow-boy en conviennent. Il faut un mur pour sécuriser la frontière. Jim Shinton a même eu l'occasion d'en parler directement au président lors d'un meeting.
Ça fait 15 ans que je réclame un mur. Et Trump arrive et il a le génie pour comprendre les problèmes. C'est pour ça que j'ai voté pour Trump. Je pense qu'il va gagner en 2020. Un jour, il me l'a dit à moi sur scène. T'inquiète, Jim, on va construire le mur.
Et si ça n'est toujours pas fait, ce n'est pas la faute du président, s'énerve Jim. C'est à cause des démocrates qui bloquent l'argent au Congrès. Au détour d'un chemin, on tombe sur une croix blanche plantée au pied d'un arbre. Quelqu'un est mort ici en traversant dans la fournaise. Migrants ou contrebandiers, on ne sait pas, mais Jim est habitué. Des croix comme celle-là, il y en a des dizaines à travers son ranch.
Voilà le vieux Jim coiffé de son chapeau de cow-boy dans son No Man's Land, accompagné de Xavier Yvon. Alors il y a le trafic de drogue, on l'a entendu Xavier, hein, et c'est l'un des arguments de Donald Trump, mais son mur c'est aussi pour juguler l'immigration. Hein.
Ah oui, c'est son thème de campagne favori. Dès l'annonce de sa candidature il y a 4 ans, souvenez-vous, il avait fait scandale en traitant les Mexicains qui immigrent de violeurs et de criminels. Ouais. Il y a eu aussi l'épisode des séparations des familles à la frontière pour faire peur aux candidats à la traversée. Mmh. Et il a même viré sa ministre de la Sécurité intérieure qui n'en faisait pas assez à son goût pour stopper le flot de migrants.
Alors, l'immigration, on en parle dans quelques instants, mais pour cela, on passera côté mexicain. A tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Et c'est jusqu'à 14h sur Europe 1. Suite des carnets du monde au pied du mur de Donald Trump sur la frontière mexicaine. Avec vous, Sophie Larmoyer et Xavier Yvon.
Xavier Yvon, toujours en ligne avec nous depuis New York. Le mois dernier, Xavier, vous êtes allé rencontrer ceux qui vivent près de ce mur, qui le souhaitent ou parfois qui le subissent. Après cette rencontre avec Jim, vieux cow-boy électeur de Trump, on va passer le poste frontière de Nogales avec vous pour aller côté mexicain à la rencontre de ces migrants qui sont la bête noire de Donald Trump. Voici votre second reportage dans cette ville frontalière de 300 000 habitants.
Ils s'accrochent à leur numéro comme à un talisman. Tous les migrants croisés à Nogales connaissent par cœur le chiffre censé leur ouvrir les portes des États-Unis.
Le numéro mio, 3062.
Le 3062.
Ah, 3032.
Le 3032. 3048. Ce sésame, c'est le numéro d'attente distribué aux postes frontières à tous ceux qui veulent déposer une demande d'asile auprès des Américains. Avant, il suffisait de franchir la frontière et de faire la démarche. Avec les nouvelles règles de l'administration Trump, désormais, il faut attendre côté mexicain qu'on vous appelle. Et ensuite, rien n'est garanti. Les Américains en font passer seulement 15 à 20 par jour, explique Panchito, qui vient apporter un petit déjeuner à ceux qui attendent leur tour dans une salle du poste frontière. Ça déborde, on a des milliers de familles qui attendent. Et tous ces migrants connaissent le visage de Panchito, l'infirmier. À bord de l'ambulance brinque-ballante qu'il a lui-même fabriquée, ce barbu énergique de 60 ans sillonne toute la journée les collines poussiéreuses de Nogales. Regardez toutes ces familles avec leurs sacs, dit-il. C'est terrible. Panchito distribue des médicaments. Il soigne un homme qui s'est brûlé, il emmène des migrants chez le dentiste et il paye les consultations avec l'argent que lui envoie une ONG américaine. Je suis juste le livreur de la gentillesse des autres, dit modestement Panchito. Policier à mi-temps, il a repris des études pour passer ses diplômes d'infirmier. Un nouvel appel. Il y a un enfant qui vomit dans un refuge. Panchito saute dans son ambulance, direction La Roca, des baraques en béton accrochées à une colline à quelques mètres de la frontière. Le centre accueille des familles venues de toute l'Amérique latine. Irma Yesenia vient d'arriver du Honduras avec sa fille Diana, 3 ans, et son fils Wilfredo, 14 mois. Pour elle, atteindre la frontière est déjà une délivrance.
Ça m'a pris 4 mois pour arriver jusqu'ici. Du Honduras, on est allé au Guatemala et du Guatemala au Mexique. Comme on voyageait en bus, les Mexicains nous arrêtaient et ils nous renvoyaient dans notre pays. Ils m'ont arrêté avec mes enfants et ils nous ont mis en prison 5-6 jours. Nous sommes revenus et revenus. 3 fois jusqu'à ce que j'arrive finalement à la frontière. C'est pour ça que je suis ici. C'était très compliqué parce que nous avons traversé tout le Mexique, parfois en marchant. Les enfants dormaient par terre. On a arrêté de prendre le bus, sinon ils nous renvoyaient dans notre pays.
Irma espère rejoindre son mari qui a déjà réussi à passer lui en Californie avec leur fille aînée. La famille est séparée depuis plus d'un an. C'est la menace des gangs qui les a forcés à fuir. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour nous, mais on ne peut plus rentrer, souffle-t-elle. Du linge sèche sur le toit terrasse du refuge. De là, on peut apercevoir les États-Unis par-dessus le mur construit bien avant Trump. Il y a une Jeep de la police des frontières, des immeubles et l'immense M d'un McDonald's. Bien sûr, on regarde de l'autre côté, dit-elle, ses enfants dans les bras. On s'imagine que là-bas, la délinquance est moins importante. Ce n'est pas comme en Honduras où on nous tue comme des chiens. Aux États-Unis, il y a plus de sécurité. Irma a le numéro 3102. Elle sait qu'elle ne sera pas appelée avant au moins un mois. En attendant, il faudra survivre grâce à la générosité des associations caritatives et des Mexicains comme Panchito. Une fois qu'ils traversent la frontière, je perds leur trace, dit-il fataliste. Mais je ne pense pas que beaucoup d'entre eux vont obtenir l'asile politique. Comme les autres, Irma Yesenia sera d'abord détenue avec ses enfants. Le temps pour les Américains d'examiner leur demande. Si elle est refusée, c'est l'expulsion. Nous, on essaie de faire une petite différence. On ne va pas changer leur vie, mais on essaie de changer leur moment, conclut l'infirmier ange gardien, avant de remonter dans son ambulance, livrer le repas du soir dans une autre auberge de migrants.
Ah, beau personnage que ce Panchito que vous avez rencontré, Xavier. Et puis on se rend compte un peu de l'enfer de ce parcours hein, pour arriver jusqu'à la frontière. Ce qu'on retient aussi de votre reportage, c'est que c'est de plus en plus dur pour des migrants d'obtenir le droit d'entrer aux États-Unis.
Oui, à défaut d'un mur physique, Donald Trump est en train de construire un mur invisible. L'histoire des numéros d'attente, c'est la conséquence directe de la nouvelle politique Remain in Mexico, Reste au Mexique. Ça crée un engorgement dans les villes frontières, parfois des crises humanitaires, difficilement gérables pour les autorités mexicaines qui pourtant ont conclu un accord avec les États-Unis en juin dernier. Depuis, le nombre de demandeurs d'asile a doublé à la frontière, vous l'avez entendu, ça ne décourage pas les migrants. La violence des gangs est telle en Amérique centrale et au Mexique qu'ils préfèrent aller chez Donald Trump. Écoutez par exemple Magdalena Santos implorer le président américain.
Monsieur Trump, vous pouvez nous donner l'opportunité d'être dans votre pays. Nous ne sommes pas des criminels, nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des bandits. Donnez-nous la possibilité d'aller de l'avant avec nos enfants. La seule chose que nous voulons est le bien-être de nos enfants et nous sentir bien. Et nous savons que les gens respectent la loi aux États-Unis.
Et je peux vous dire que Magdalena est déterminée. Si elle n'obtient pas l'asile, elle est prête, elle me l'a dit, à traverser illégalement la frontière. Elle a même déjà essayé. Elle a marché 4 jours dans le désert avant de se faire attraper et renvoyer au Mexique. Cette année, ils sont 1 million comme elle à avoir été arrêtée à la frontière par les Américains, c'est du jamais vu depuis 12 ans.
Et face à ce phénomène, Donald Trump fait pression sur le Mexique pour qu'il empêche les migrants d'arriver jusqu'à la frontière.
Parfaitement, la Hondurienne que vous avez entendue dans le reportage, Irma, a été victime de cette politique. Si elle a été attrapée 3 fois par les Mexicains et renvoyée 3 fois dans son pays, c'est, on peut dire, sur ordre de Donald Trump. Ouais, le président américain a menacé son voisin mexicain de le matraquer de taxes douanières s'il ne faisait pas plus d'efforts pour lutter contre l'immigration. Et ça a donné des résultats. Dans son auberge pour migrants de Nogales, Francisco a vu chuter drastiquement le nombre de Guatémaltèques, de Honduriens ou de Salvadoriens.
Le président Trump a obligé le président mexicain à fermer la frontière sud du Mexique afin que les centraux américains ne puissent pas passer. C'est peut-être une erreur de notre président et de notre gouvernement fédéral, parce que du coup, le gouvernement mexicain fonctionne ici comme une police d'immigration pour le compte des États-Unis.
Donald Trump promettait que les Mexicains paieraient la construction du mur. C'est pas le cas, mais il a donc quand même réussi à leur faire faire une partie du travail pour son mur invisible. Tout ça, plus les kilomètres de murs physiques qu'il construit au pas de charge, eh bien Donald Trump va s'en servir allègrement pour sa campagne de réélection en 2020.
Et on peut penser que la scie sauteuse à 100 dollars risque de bien se vendre dans les mois et les années qui viennent.
Oui, il y a aussi des vols de fil de fer barbelé qui servent normalement à la construction du mur.
Voilà. Merci Xavier de nous avoir mis au pied du mur, physique ou administratif, de Donald Trump et de nous avoir permis aussi d'entendre quelques tranches de vie de ces familles qui fuient l'extrême violence et ce vieux rancher qui n'en peut plus d'être sur la route des trafics. Donc deux histoires de part et d'autre de la frontière. Merci et à bientôt dans les carnets, Xavier.
À bientôt.
Europe 1, les carnets du monde.
Les carnets du monde, un voyage sonore pour découvrir l'inconnu. C'est tous les dimanches de 13h à 14h sur Europe 1. Les carnets, c'est aussi un livre dans le monde pour voyager à travers les mots. Et parfois, c'est un film. Voici donc un film dans le monde, un film qui nous emmène en Tunisie et qui, même s'il n'y est pas question de mur, parle à sa manière d'enfermement et de liberté. Sophie Larmoyer.
On va parler cinéma avec Margot Barallon. Bonjour Margot.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Ravie de ce retour dans les carnets. Vous êtes venue nous parler d'un film tunisien qui sort mercredi prochain, ça s'appelle Noura rêve.
Et c'est donc l'histoire d'une femme, Noura, 40 ans, 3 enfants, qui rêve de se débarrasser de son mari. Alors pas question de le tuer, évidemment, divorcer lui suffirait déjà bien. Il faut dire que le mari en question est en prison pour vol, escroquerie. On comprend assez rapidement que ce n'est pas la première fois. Mais surtout, Noura a un amant. Elle rêve de pouvoir recommencer sa vie avec lui. Le problème, c'est que l'adultère en Tunisie, ce n'est pas seulement mal vu, c'est interdit.
Je ne fais rien de grave.
Et tes enfants ?
Mes enfants ? C'est quoi ton problème ?
Aucun. Je pense juste aux enfants.
C'est à moi de le faire. Mêle-toi de tes affaires.
Tu sais que vous risquez tous les deux 5 ans de prison.
Je sais. Autre chose ?
Et quand même, 5 ans de prison pour adultère.
Ah ouais, c'est énorme. Alors Noura a quand même un peu d'espoir. Au début du film, il lui reste 4 jours à tenir avant que le divorce soit prononcé. Sauf que son mari, qu'elle n'a absolument pas prévenu, évidemment, sort de prison plus tôt que prévu.
Et ça se gâte, j'imagine.
Oui, Noura va se retrouver coincée entre ce mari sombre qu'on devine violent et son amant qui la pousse à tout quitter en abandonnant sa maison, ses enfants. Alors dit comme ça, on imagine un film sur la condition de la femme en Tunisie. Mais la réalisatrice Hinde Boujma, elle a d'abord voulu raconter une histoire universelle sur un trio amoureux.
Je ne définis pas mon film comme un film sur la condition de la femme en Tunisie, d'abord parce que c'est un sujet très universel. Un, la passion, l'amour, c'est universel. Deux, ce n'est pas le seul pays au monde où on a des lois qui punissent l'adultère, donc ça ne peut pas être une exception tunisienne. C'est vraiment un film, je pense, qui part d'une petite histoire, mais qui touche toutes les femmes.
D'ailleurs, pour Hinde Boujma, le plus important pour faire du bon cinéma, c'est la fiction, c'est cette petite histoire, et elle n'a pas l'intention de faire un film militant.
On n'écrit pas des films en se disant « bonjour, je vais faire du militantisme ». Je crois que c'est en chacun de nous. Les réalisateurs ont chacun une indignation qui fait qu'ils créent et ils vont raconter des histoires qui les touchent. Donc moi, c'est un petit peu des deux. Le militantisme, on l'a en tant que personne. Le film, c'est aussi des histoires.
Vous, Margot, qu'est-ce qui vous a plu particulièrement ?
Alors, la première chose, c'est que le casting est excellent. Au départ, la réalisatrice avait imaginé prendre des acteurs non professionnels, trouvés dans la rue. Et finalement, elle s'est retrouvée avec des stars, mais qu'elle a fait travailler à contre-emploi. Par exemple, son actrice principale, elle s'appelle Hinde Zabri. C'est une icône glamour en Tunisie et en Égypte. Et elle se retrouve là dans la peau d'une femme issue de la classe populaire, sans maquillage, dépouillée. Elle est excellente et c'est encore plus flagrant pour l'acteur qui joue le mari, Lotfi Abdelli. Au départ, lui, il est humoriste, donc quand même très loin de son personnage.
C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, c'est un grand acteur et qui s'est retrouvé dans un rôle très 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 difficile aussi pour lui. Les rôles de salaud, c'est pas toujours gratifiant. C'est beau à faire parce que c'est un enjeu en tant qu'acteur, mais c'est pas gratifiant parce que le public sort avec une idée bien déterminée du personnage qu'il a réussi à véhiculer évidemment par le travail.
Alors au-delà des acteurs qui sont très bons, il faut aussi saluer la mise en scène de Noura Rêve. Quasiment toutes les séquences sont tournées en intérieur, l'extérieur, la rue, ça n'existe que par le son. C'est filmé très près des personnages et on va finir par étouffer un peu avec eux.
C'est un film sur l'enfermement parce que l'enfermement, ce n'est pas être cloisonné dans une pièce entre quatre murs. L'enfermement, il est social, l'enfermement, il est au niveau des lois, il est partout sur cette planète Terre. Je ne voulais pas m'éloigner de mes personnages d'abord pour être au plus près de ce que eux ressentaient à chaque seconde et établir la tension. Et puis surtout, sortir trop des intérieurs, ça me donnait l'impression d'aller faire du tourisme en Tunisie.
Et rigolote, en même temps, on a bien compris que ce n'était pas un film de tourisme. Hein.
Non, pas du tout. Et même la lumière qui est souvent écrasante dans ce pays, elle a été adoucie, presque ternie. De Boujma, elle dit souvent à ce sujet que c'est parce qu'elle a la double nationalité. Elle est tunisienne et belge, donc elle a mélangé le gris du ciel de Belgique à son soleil natal.
Ça fait un joli mix apparemment. Ça s'appelle Noura rêve de Hinde Boujma et ça sort mercredi prochain au cinéma. Merci beaucoup Margot. On vous retrouve, je crois, tous les lundis chez Philippe Vandel, Culture Média.
Voilà, pour parler séries.
Des séries. Très bien, vous nous donnez de bons conseils. Merci Margot, à bientôt.
Merci.
À suivre, il y a 30 ans dans la nuit, le mur de Berlin était tombé et les deux Allemagnes allaient bientôt travailler à leur réunification. Pour les entreprises de l'Est, ça ne s'est pas toujours passé à leur avantage. On en parle dans quelques instants.
Europe 1, les carnets du monde.
Partout. Partout dans le monde, les reporters et correspondants d'Europe 1 explorent et racontent le quotidien d'autres cultures. Après le mur de Trump, le long de la frontière mexicaine, on va maintenant évoquer à pratiquement 13h30 ce mur qui est tombé il y a 30 ans dans la ville de Berlin.
La chute d'un mur et la chute du rideau de fer, c'était un événement il y a 30 ans. Ce week-end est donc forcément chargé d'émotions et de souvenirs à Berlin. On commémore la grande joie du 9 novembre 89, mais on se confronte aussi avec ce passé, car il y a encore beaucoup de ressentiments à l'Est. Ils sont exacerbés par l'extrême droite qui instrumentalise la mémoire de 89 de manière populiste. Vous vous souvenez sûrement, hein, on en avait parlé il y a quelques semaines, avec Hélène Kohl, bien sûr, qu'on retrouve à Berlin aujourd'hui. Bonjour Hélène.
Bonjour Sophie.
L'expression de ces ressentiments, ça a aussi le mérite d'ouvrir le débat hein, sur la manière dont a été menée la réunification. On va parler ensemble de ces aspects économiques, notamment la manière dont la RDA a été soldée en quelques mois.
Oui, parce que la RDA possédait tout, hein, les terres agricoles, les infrastructures, les usines, les immeubles d'habitation, et tout ça a basculé dans le giron de l'Allemagne réunifiée pratiquement du jour au lendemain, dans le giron en fait d'un organisme spécial, la Treuhand, hein, c'est littéralement une agence fiduciaire qui a été créée exprès et qui a dû pour chaque cas trancher la question, on garde dans le domaine public ou bien on vend.
Et on connaît le choix qui a été fait.
Oui, privatisation à tour de bras et très vite donc des faillites, 13 000 en deux ans et donc explosion du chômage. Aujourd'hui, il n'y a pas un Allemand de l'Est qui ne parle pas de cette fameuse Treuhand. C'est un énorme traumatisme collectif qui a hanté toutes les commémorations des 30 ans cette semaine et qui a même plombé les festivités.
Alors vous vous êtes rendue, Hélène, dans une usine qui avait justement été placée sous la coupe de la Treuhand au début des années 90. On part avec vous en reportage à une centaine de kilomètres de Berlin.
Au pas de course au milieu des machines fumantes, Detlef Scheele visite l'usine de fibres synthétiques Märkische Faser. C'est le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi. Il vient annoncer que l'entreprise va avoir le droit de faire appel à des ouvriers ukrainiens. Elle souffre d'un grave manque de personnel. Et pourtant, autrefois, 7000 personnes travaillaient ici. Mais à la réunification, les experts de la Treuhand ont décrété qu'il fallait dégraisser. La région s'est vidée de sa main-d'œuvre. La ville voisine a perdu un tiers de sa population. Pour autant, Detlef Scheele refuse de faire le procès des années 90.
Il faut toujours garder en tête que nous avons complètement transformé une économie qui n'était pas du tout résistante à la concurrence en une économie compétitive et performante. Les gens qui travaillent ici maintenant n'avaient jamais eu des emplois aussi solides.
Le patron de Märkische Faser, un géant courtois et dynamique, n'est pas du tout de cet avis.
La Treuhand, c'est horrible. Pour moi, c'est horrible. Je suis sûr qu'on a été trop arrogant à l'Ouest. On n'a pas accepté que l'Est a aussi des structures qui sont plus développées qu'on a pensé. Il a eu beaucoup d'opportunisme politique à court terme. Alors l'Ouest a voulu gagner plus d'argent.
Eberhard Brack, ce patron, vient de l'autre bout du pays, près de la frontière avec la France. Il est l'un des rares entrepreneurs de l'Ouest à avoir cru au potentiel de l'Est et notamment de cette entreprise qui était l'un des fleurons de l'industrie de RDA et avec laquelle son père travaillait du temps du mur.
Nous, on a vendu cette fibre qu'on a produite ici pendant 20 ans dans tous les pays. C'était une fibre de classe mondiale.
Mais à l'époque, la Treuhand ne fait pas la même analyse. Elle vend l'usine à un repreneur suisse qui la cède à un groupe d'actionnaires de Singapour. Et c'est la faillite. Matthias Hohmann était syndicaliste à l'époque.
On s'est installé devant le grand portail de part et d'autre du grillage avec des fourches. Puis on a planté de gros ballots de synthétique et on a bloqué l'entreprise.
Après des semaines d'occupation, ils obtiennent un délai et une aide financière de la région. Mais il faudra attendre 2001 et l'arrivée presque miraculeuse de l'actuel patron pour que l'avenir de l'usine s'éclaircisse. Aujourd'hui, elle fait partie des leaders mondiaux sur son secteur.
Nous entrons maintenant sur le site même de Märkische Faser.
Depuis sa belle voiture noire, une berline ouest-allemande, Matthias Hohmann fait les comptes à voix haute.
Là, sur cette friche, il y avait une unité de production gigantesque, inaugurée en 1988, mais on a dû vite la démanteler. Moi, je pense qu'on aurait pu la soutenir quelque temps pour la garder sur le marché. Mais à ce moment-là, financièrement, c'était évidemment la solution la plus rentable. Même moi, je la comprenais. Mais au cours des 30 dernières années, on a transféré tellement d'argent de l'Ouest vers l'Est, une somme énorme, je trouve, qu'en comparaison, ça aurait été moins cher de sauver notre économie.
Au total, la réunification a coûté 2000 milliards d'euros, en très grande partie des transferts sociaux, des allocations, car il fallait soutenir la population de l'Est frappée par le chômage. Une fois dans son bureau, l'ancien syndicaliste, qui est devenu le directeur développement de la zone industrielle, lâche vraiment ce qu'il a sur le cœur.
C'est clair, nous étions les perdants. Nous devions nous soumettre car notre système n'était pas le meilleur et il ne fait aucun doute qu'économiquement, il ne tenait pas la route. Mais la décision de sauver ou pas une entreprise dépendait entièrement de la Treuhand et de ses experts qui venaient en l'occurrence de chez nos concurrents directs. Des cadres de chez Höchst ou Bayer, pour lesquels le territoire est-allemand était un marché à conquérir et tous les producteurs ou les sous-traitants de l'Est comme nous étaient gênants, donc on a été retirés du marché.
L'économie est-allemande a été désossée, démantelée, dépossédée de sa capacité de production. L'ancienne RDA vit encore aujourd'hui sous perfusion financière de l'Ouest et cela joue aussi sur l'état d'esprit de ses habitants. 70% d'entre eux disent ne pas se sentir reconnus à leur juste valeur.
Privatiser, privatiser à tout prix. A posteriori, ce n'était pas la solution la plus optimale pour la cohésion de notre société dans son ensemble. Quand on te dit, et à ton voisin, et à tout le monde en fait, vous ne servez à rien, on n'a pas besoin de vous, ce que vous savez faire, ça ne nous intéresse pas, ça laisse des traces.
Aujourd'hui, Märkische Faser a repris des couleurs et d'autres entreprises l'ont rejoint sur la zone industrielle. L'ancien syndicaliste a bien rebondi et il n'est pas amer, mais Matthias Hohmann voudrait qu'on dise enfin la vérité sur les conditions économiques de la réunification. Cet été, plusieurs personnalités politiques ont demandé l'ouverture d'une commission d'enquête sur la Treuhand. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
On est de retour en studio ici à Paris et depuis Berlin, toujours en ligne avec vous, Hélène Kohl. Ce reportage va un peu dans le sens de ceux qui parlent d'annexion et non de réunification des deux Allemagnes.
Oui, c'est ce que dit par exemple Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Ou bien l'extrême droite ici, le parti AfD, qui fait 20-25% dans ces régions. Sauf qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, Sophie. La Treuhand, elle a été créée non pas par l'Ouest, mais par les élus de la RDA. C'est une décision du tout dernier Parlement de l'Allemagne de l'Est et c'est un choix qui a été validé par les habitants lors des élections de mars 90. Les Allemands de l'Est voulaient le plus vite possible basculer dans le système de l'Ouest. Et quand d'ailleurs il y a eu un débat sur une éventuelle phase de transition, eh bien ils ont quitté le territoire massivement pour rejoindre l'Ouest. L'exode d'avant la chute du mur, il continue en 89-90, il faut le rappeler. Et donc pour stopper ce phénomène, on a introduit à l'Est le Deutschmark à parité égale avec l'ancienne monnaie. Et ça a eu une conséquence immédiate, c'est la dépréciation radicale de toute l'économie de l'Est. La RDA ne valait plus rien.
Aujourd'hui, il n'y a pas eu de rattrapage entre l'économie de l'Ouest et celle de l'Est ?
Alors, il y a encore des écarts de revenus de l'ordre de 20%, mais c'est compensé par le coût de la vie. Une étude vient de montrer qu'avec 41 000 euros par an à Chemnitz en Saxe, on vit aussi bien que quelqu'un qui gagne 79 000 euros à Munich. Globalement, en fait, à plus de 70%, les habitants de l'Est se disent satisfaits de leur situation économique. Tout l'argent de l'Ouest a permis un développement rapide malgré tout. Par rapport aux Polonais, aux Tchèques ou aux Roumains, les Allemands de l'Est s'en sortent plutôt bien. Mais il y a des violences symboliques. Par exemple, le point d'indice des retraites, il est toujours plus bas à l'Est. Ouais. Ça veut dire qu'à carrière égale, la valeur accordée au travail effectué est inférieure à celle qu'on donne au travail d'une personne de l'Ouest. Et ça, c'est vraiment très douloureux. Mmh. Les loyers aussi, ils sont peut-être plus bas qu'à l'Ouest, mais les propriétaires, ceux qui ont eu l'argent pour acheter des appartements par dizaines à l'époque, quand on a bradé le parc immobilier de la RDA, ce sont évidemment des gens de l'Ouest.
Qu'en est-il de la représentation dans l'espace public ? Il y a tout de même une chancelière originaire d'Allemagne de l'Est.
Oui, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en fait, il n'y a aucun président de tribunal, aucun président d'université, aucun patron du DAX qui vient de l'Est. C'est d'ailleurs l'une des raisons du succès de l'extrême droite, l'AfD, qui se positionne très habilement comme étant maintenant le parti qui représente les gens de l'Est.
Que peut faire cette commission dont vous parliez ?
Alors d'abord, ouvrir les archives. Quelques cas sont assez connus et ils sont d'ailleurs assez scandaleux, des cas où l'Ouest a volontairement écarté des concurrents à l'Est. Alors ça alimente évidemment des fantasmes sur cette horrible machinerie capitaliste qui aurait détruit la RDA. On raconte notamment que l'Ouest aurait envoyé exprès de très jeunes managers pas assez formés ou bien des fonctionnaires incompétents qui étaient au placard à l'Ouest. Bref, cette commission aurait le mérite de faire la transparence et d'ouvrir un débat honnête et fondé, car on l'a bien senti toute cette semaine de commémoration. L'ambiance générale est plombée par cette question.
Et on comprend en tout cas que l'ambiance n'est pas complètement à la fête pour ses 30 ans de la chute du mur. Merci beaucoup Hélène pour toutes ces explications sur la Treuhand, cette agence créée au moment de la réunification pour décider du sort des entreprises de l'ex-RDA. À très bientôt Hélène.
À bientôt Sophie.
Et dans un instant, on sera au Japon avec notre correspondant Bernard Delattre pour évoquer un autre mur, toujours en place celui-là, celui qui retient prisonniers des Japonais en Corée du Nord.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h, vous écoutez Sophie Larmoyer. Au menu, des reportages long format et des rencontres, comme chaque dimanche. On écoute Le Monde changer sur Europe 1. Il est maintenant 13h41, après le mur de Berlin et le mur mexicain. On vous parle d'un autre mur, dont on parle beaucoup et depuis longtemps au Japon, Sophie.
C'est un mur beaucoup moins connu, car il est invisible et pourtant très réel. Il se trouve en Corée du Nord. Et il retient dans ce pays, contre leur gré, des Japonais que Pyongyang a kidnappés dans les années 70 et 80. Bonjour Bernard Delattre.
Bonjour Sophie.
Vous nous parlez depuis Tokyo. Ces Japonais sont donc captifs dans cette dictature depuis 30 à 40 ans, ce qui fait d'eux les plus anciens otages du monde, hein, en quelque sorte. Alors d'abord, petit rappel historique, expliquez-nous pourquoi la Corée du Nord a enlevé ces Japonais.
Ces enlèvements sont motivés par des activités d'espionnage. Ces personnes, une fois kidnappées, ont été rééduquées. Elles ont subi un lavage de cerveau, si vous voulez. Puis on leur a fait suivre une longue formation, militaire notamment, afin qu'ils deviennent eux-mêmes des agents d'élite des services secrets nord-coréens. Des agents qui bénéficient donc d'une excellente couverture. Qui imaginerait un Japonais espionné pour la Corée du Nord? Ou alors ces kidnappés étaient utilisés pour former les agents secrets nord-coréens, pour leur apprendre le japonais notamment, afin qu'ensuite ces espions, pendant leur mission au Japon, puissent parfaitement se fondre dans la population de ce pays et ne pas du tout attirer l'attention.
On a une idée du nombre de personnes qui ont été kidnappées?
Alors, Pyongyang a reconnu une dizaine d'enlèvements seulement, mais c'est un mensonge. Le nombre de disparus à l'époque laisse penser qu'il y a probablement eu plusieurs centaines de kidnappings. Pas seulement de Japonais d'ailleurs, de Sud-Coréens aussi.
Alors, vous avez rencontré justement la famille d'une de ces personnes qui a été enlevée, Megumi Yokota. Vendredi prochain, ça fera 42 ans, jour pour jour, qu'elle a été kidnappée. Et ses proches sont toujours sans nouvelles d'elle.
Oui, et son sort bouleverse les Japonais, parce que figurez-vous que Megumi Yokota n'avait que 13 ans le jour de son enlèvement. Le 15 novembre 1977, vers 18h30, au moment où elle rentrait de l'école, l'enquête a établi que ses ravisseurs l'avaient attendue dans une petite rue sombre et peu fréquentée. Ensuite, ils l'ont amenée à la plage, 200 mètres plus loin, et l'ont forcée à embarquer dans un bateau qui a mis le cap sur la Corée du Nord. À l'époque, un de ses deux petits frères, Takuya Yokota, n'avait que 9 ans, mais il se souvient très bien de ce jour-là.
Ma grande sœur a été kidnappée à l'âge de 13 ans. Un soir, après l'école, on l'a jetée au fond de la cale d'un bateau qui l'a emmenée en Corée du Nord. Selon des témoignages concordants, pendant des heures, elle a appelé ses parents à l'aide. Elle a tant frappé sur la porte pour qu'on la laisse sortir, puis elle a tellement essayé d'ouvrir elle-même cette porte qu'à la fin du voyage, ses mains étaient en sang. Elle n'avait plus d'ombre. Les années ont beau passer, aujourd'hui encore, quand je pense à la terreur et au désespoir que Megumi a ressenti ce soir-là, ça me dévaste. Ma sœur, c'était le soleil de la famille. Ça fait 42 ans que la politique nord-coréenne de prise d'otages nous prive de ce soleil. C'est inadmissible. Mes parents vieillissent, ils ont 86 et 83 ans, leur santé se dégrade. Alors, s'ils venaient à mourir sans avoir réalisé le rêve de leur vie, revoir leur fille, ce serait une tragédie. Pour tous les Japonais kidnappés dont les parents deviennent âgés, il n'y a plus une minute à perdre.
42 ans d'attente, ça doit être insupportable, évidemment. Elle devrait avoir 55 ans aujourd'hui, mais en fait, Bernard, on ignore si Megumi Yokota est toujours en vie.
Exactement. Écoutez, ce haut fonctionnaire, membre de la cellule spéciale qui, au gouvernement japonais, gère ces dossiers de kidnapping.
La Corée du Nord a d'abord prétendu que Megumi Yokota était morte en 1993. Mais un témoin ayant ensuite certifié l'avoir vue l'année suivante, elle a fini par situer son décès en 1994. C'est donc confus comme explication. Ensuite, la Corée du Nord nous a remis des ossements, présentés comme étant ceux de Megumi. Mais nos analyses ADN ont montré que ce n'était pas le cas. C'est pareil pour les autres otages japonais que Pyongyang prétend mort. Leurs certificats de décès émanent tous du même hôpital et ils portent tous la même date. Or, ces décès sont censés avoir eu lieu à des années d'écart et à des endroits différents. C'est curieux, non? Ces certificats attribuent la mort de deux jeunes japonais de 24 et 27 ans à une crise cardiaque. Quant à deux autres otages qui, eux, sont censés avoir péri dans des accidents de la route, eh bien les rapports de police qui nous ont été remis ont été censurés. Bref, tout ça ne tient pas la route. Pour nous, faute de preuves irréfutables de leur mort, Megumi et tous les autres que la Corée du Nord prétend décédés sont vivants. Ils doivent donc être libérés sans délai.
Effectivement, il y a tellement de mensonges et de réponses improbables que ça n'incite pas à les croire.
Oui. Takuya Yokota, en tout cas, s'est toujours refusé à envisager le pire, à imaginer sa sœur morte.
Depuis 42 ans, je n'ai jamais perdu l'espoir de revoir Megumi vivante. Baisser les bras, ce serait manquer à mon devoir de frère et puis trahir ma propre famille. Je suis certain qu'un jour, je lui dirai « Bon retour à la maison, grande sœur ». Mais ce jour-là, en fait, avant de lui souhaiter la bienvenue, je vais lui dire ça. « Pardon, Megumi, pardon d'avoir mis tant d'années à te secourir ».
Vous entendez ce sentiment de culpabilité, Sophie ?
Ouais, ouais.
Les proches des kidnappés se sentent impuissants, désemparés, et ils vivent très mal ces séparations qui s'éternisent sans qu'ils puissent rien faire.
Et en plus, c'est tout sauf un cas unique, hein, n'est-ce pas ? Au Japon, il y a énormément de familles qui sont dans cette situation.
Ah oui, la police nippone a recensé 881 disparitions suspectes survenues entre 1977 et 1983, et qui sont probablement dues à ce type d'enlèvement.
On est loin des 10 cas reconnus par Pyongyang. Et le pire, c'est que 30 à 40 ans plus tard, finalement, très peu ont été relâchés.
Oui, en tout et pour tout, 5 de ces Japonais kidnappés ont été relâchés.
5 seulement. Et vous avez pu rencontrer l'un d'eux, Bernard.
Voilà, il s'appelle Kaoru Hasuike, il a 60 ans. Et la Corée du Nord l'a relâché en 2002. Ainsi que sa femme, qui avait été enlevée avec lui le 31 juillet 1978. Ils avaient alors 20 et 22 ans et étaient à la plage. Kaoru Hasuike retournait avec moi à cet endroit où, il y a 41 ans, sa vie a basculé.
Ce soir-là, à la plage, il y avait notamment un groupe de Japonais qui buvaient de l'alcool. Ils étaient assez éméchés et bruyants. Et on n'aimait pas trop l'ambiance, en fait, Yukiko et moi. Donc, histoire de trouver un coin un peu plus calme, on a marché plusieurs centaines de mètres jusqu'à ce côté-ci de la plage qui est plus isolé. On était en train de fumer une cigarette en bavardant tranquillement, quand un homme s'est approché. Il nous a demandé du feu, puis a engagé la conversation, mais il parlait si mal le japonais qu'il fallait vraiment s'accrocher pour comprendre ce qu'il disait. Du coup, on ne s'est pas rendu compte qu'en fait, pendant qu'il détournait notre attention, dans notre dos, deux hommes étaient en train de s'approcher de nous à pas de loup. Tout à coup, ils nous ont sauté dessus. Ma copine, ils ne l'ont pas frappé, mais moi, ils m'ont copieusement tabassé. Ensuite, ils nous ont bâillonnés, ligotés et mis chacun dans un grand sac, une espèce de sac de couchage, puis ils nous ont forcés à embarquer dans un petit canot à moteur. Et une fois au large, on a été transférés sur un chalutier qui nous attendait, dans le noir.
Après plusieurs jours de navigation, le bateau est arrivé en Corée du Nord, où ils ont été retenus pendant 24 ans.
Ces histoires sont à peine croyables, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'ils ont été forcés à faire pendant toutes ces années en Corée du Nord, Bernard ?
Eh bien, on leur a demandé de trahir leur propre pays, puisqu'ils ont dû apprendre la langue, la culture, les traditions et les usages japonais aux agents nord-coréens, qui ensuite, grâce à cette formation, ont été en mesure d'espionner parfaitement le Japon.
Et leur quotidien, à quoi il ressemblait dans cette dictature stalinienne ?
Il était pénible, vous l'imaginez. Ils habitaient dans un ghetto ultra surveillé, appelé « zone pour invités étrangers », donc là où tous les otages étaient regroupés. En plus, ils ont dû renier leur identité. Écoutez Kaoru Hasuike.
Le sentiment anti-japonais est très fort en Corée du Nord, vu qu'on l'enseigne aux enfants dès l'école primaire. Du coup, quand je rencontrais des gens que je ne connaissais pas, je ne leur disais pas que j'étais japonais. Je prétendais être coréen, né au Japon, ayant longtemps vécu dans ce pays, d'où mon accent un peu particulier. Mais je n'ai jamais pu parler ma langue, en fait, là-bas. Mes deux enfants, d'ailleurs, j'ai dû les élever en coréen. Ils ont été scolarisés dans un internat spécial réservé aux enfants des invités étrangers, entre guillemets, et je ne les ai pas vus grandir. Dans cet établissement, qui était situé dans une région reculée, la discipline était vraiment stricte. Mes enfants n'étaient autorisés à rentrer en famille que deux week-ends par an. Sinon, tout au long de mes 24 années passées en Corée du Nord, pas un jour je ne me suis senti libre, pas un seul. J'étais sans cesse surveillé. Dès que je sortais, même juste pour aller au magasin du coin, deux agents m'escortaient jusqu'à mon retour à la maison.
Ce calvaire a donc pris fin en 2002. Mais ensuite, ils ont dû attendre encore deux ans avant que Pyongyang libère leurs deux enfants.
Depuis, la famille a refait sa vie au Japon ?
Oui, elle est évidemment très solidaire des proches des otages qui, eux, n'ont toujours pas été relâchés.
Ah oui.
Kaoru Hasuike vit très mal le fait que ce dossier des kidnappés soit complètement enlisé, malgré les pourparlers diplomatiques avec la Corée du Nord depuis un an.
C'est un dossier compliqué, oui, mais tout de même, pas le moindre kidnappé japonais n'a été relâché depuis 15 ans. Bon sang, des vies humaines sont en jeu. La diplomatie perd tout son sens quand elle ne s'occupe que des relations entre États et non de l'humain. Et je le répéterai jusqu'à ce que tous nos otages aient été libérés.
Quelle belle détermination on entend là. Hein.
Il en faut, car de son côté, la Corée du Nord répète en boucle depuis 2004 que ce dossier des kidnappés nippons est désormais réglé et que c'est une histoire ancienne.
Terrible destin pour tous ces Japonais qui, du jour au lendemain, ont été arrachés à leur pays et dont les proches, des décennies plus tard, vous nous l'avez expliqué, attendent toujours le retour. Merci beaucoup Bernard pour ce coup de projecteur sur cette sorte de mur nord-coréen invisible qui n'est pas encore tombé celui-là. Il sépare toujours des familles entières en Asie. Vous avez vraiment recueilli des témoignages incroyables. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci à vous Sophie, à très bientôt.
Europe 1. En réalité, son aura, le chanteur, la doit surtout aux réseaux sociaux. 500 000 abonnés.
Écoutez le monde changer.
One more time, the Fortnite World Cup Finals.
Car c'est Van Gogh en version numérique, son et lumière. On voit les œuvres défiler en gros plan sur Vivaldi ou Mozart.
Comme moi, vous êtes sans doute déjà énervé devant Netflix, vous savez, parce que l'épisode suivant a démarré alors que vous n'avez rien demandé.
Europe 1.
Europe 1.
Bonjour et bienvenue sur Europe 1 à Angèle.
Bonjour.
Écoutez, le monde changé.
Europe 1, les carnets du monde.
Et oui, c'est votre rendez-vous dominical de ce début d'après-midi sur Europe 1 avec vous Sophie Larmoyer. C'est le moment maintenant de faire un tour en Autistan et contrairement à ce que certains croient, c'est un monde extrêmement ouvert. Joseph Chovanec nous a rejoint, c'est lui notre guide.
Il nous guide dans ses souvenirs de voyage et avec sa double casquette de philosophe et autiste Asperger. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde. Grüezi miteinander.
On a beaucoup parlé de murs dans cette émission et vous à l'inverse, vous nous emmenez dans une autre dimension.
Oui, Sophie, quand on est à Berlin, on peut voir les restes de ce mur des grandes constructions soviétiques. Et quand on voyage, c'est souvent ce que l'on retient et ce que l'on prend en photo que cette très grosse réalisation. Et la fierté nationale repose souvent sur elle. Mais rarement, on s'intéresse à l'inverse, à ce qui est petit, tout petit. Pendant mes séjours en Iran, j'avais été intrigué de voir combien les Iraniens étaient fiers de l'aptitude de leurs artisans à travailler les plus minuscules détails. Je n'oublierai jamais la jubilation de ce bibliothécaire dans la ville sainte de Qom quand il m'avait montré un Coran de la taille d'un demi-timbre, entièrement écrit à la main, avec un seul cheveu en guise de plume.
Qu'est-ce qui vous a récemment replongé dans cette dimension du minuscule ?
Sophie, tout ce qui est infiniment petit, j'y suis retombé un peu par hasard. Jeudi dernier, peut-être que c'était la magie d'avant Noël. J'ai découvert en tout cas un endroit hors du commun, à savoir le Spielzeugweltenmuseum de Bâle. Il s'agit littéralement du musée des mondes du jouet. En fait, il s'agit plutôt d'un monde parallèle bâti autour de la miniature, où soi-même on se sent quelque part à mi-chemin entre l'enfance et l'âge adulte.
C'est tout vous, ça.
Exactement. Le musée de Bâle a sans doute la plus belle collection au monde d'ours en peluche et de maisons de poupées. Alors c'est très simple. Quand on arrive dans la salle des ours par laquelle normalement on commence la visite, impossible de ne pas se croire chez Harry Potter. Ils sont partout, de toute taille, de tout âge, en train de s'adonner à leurs activités quotidiennes. Ce sont en fait les nôtres, hein, chef de gare, vacancier, policier, etc. C'est cela le point remarquable du musée. Il ne s'agit pas que d'un empilement, si j'ose dire, autistique d'objets systématiques, massifs par le nombre. Il s'agit d'objets vivants, comme s'ils existaient à l'instar des humains, avec leur petite vie secrète dont on aurait un bref, mais enivrant aperçu.
Mais ce sont des automates, vos ours ?
Oh non, ce sont des ours vivants. L'étage suivant, c'est celui des maisons de poupées. De nos jours, on peine à comprendre l'importance de ce genre artistique, en particulier à la fin du 19e siècle, où ce fut l'apogée vraiment des maisons de poupées. À l'époque, il était relativement courant de consacrer une bonne partie de sa vie à entretenir des maisons de poupées. Des magazines spécialisés existaient. Il y avait des artisans d'une virtuosité extraordinaire. Je suis resté songeur, par exemple, devant la réalisation d'une maison en particulier où les poupées étaient couturières et se faisaient des robes, le tout avec moins de 10 cm de hauteur. Et c'est là que j'ai fait le lien avec une visite que j'avais précédemment effectuée, presque oubliée d'ailleurs, au Rijksmuseum d'Amsterdam, qui lui aussi a sa fabuleuse collection de maisons de poupées. Un panneau descriptif de cet art, il disait que les maisons de poupées étaient sur bien des points les maisons les plus représentatives de l'âme d'une époque.
Un peu comme des maisons témoins, quoi.
Oui, Sophie, elle a raison. Est très simple, c'est qu'on n'a que très peu de descriptions concrètes de la vie quotidienne ou scolaire des siècles écoulés. Mmh. Hein. Les gens ne mettaient pas ces détails par écrit, en particulier ce qui était considéré comme le quotidien féminin. Les maisons de poupées sont parfois les seules, si j'ose dire, capsules temporelles venues d'un pas si lointain passé. Hein. Ah, j'aurais beaucoup aimé rencontrer l'une des personnes ayant consacré leur vie à la maison de poupées plus qu'à la maison grand format.
Alors, on est en plein autistan, là.
Ah oui, je crois qu'il y a des diagnostics d'autisme qui se sont perdus. Et peut-être qu'au fond, qu'il y a quelque chose de profondément humain dans tout cela. Hein. Donc, quand le monde traverse mille épreuves, n'est pas plaisant à vivre, il faut savoir bâtir son univers intérieur miniature. Est-ce que c'est la leçon secrète du bonheur ? En dialecte alémanique de Suisse, on dirait « des dümmes tschibur hat die größte Herdöpfel ». Donc, c'est le paysan le plus bête qui a les plus grosses pommes de terre.
Mais où allez-vous chercher vos dictons ?
Ah, en voyage !
Toujours en voyage. Merci beaucoup, Joseph. On vous dit à dimanche prochain.
À très bientôt, au Fidelug.
Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui encore, le long de ces murs qu'on a arpentés ensemble. Il y a une autre barrière naturelle, celle-là, sur laquelle de nombreux migrants se lancent, c'est la Méditerranée. Et j'en parle parce que l'an dernier, vous aviez pu entendre Saïd, un jeune Tunisien de 14 ans, prêt à risquer sa vie pour gagner l'Europe. Sébastien Krebs l'avait rencontré, ça avait donné un beau reportage qui vient d'être primé. Sébastien Krebs a reçu le prix Varenne, ça nous met en joie au carnet. Un grand bravo à lui. Voilà qui est dit. Marc Fréjean signe la réalisation de cette émission. Florence Gimalac m'a aidé à la préparer. Merci à eux.